La bande à gogo. Chaque mardi 19h, l'émission 100% rugby de RKS.
Et bonsoir à tous, bienvenue dans la bande à gogo, émission exclusivement rugby sur RKS 97 FM. Aujourd'hui, la folie, la passion, l'envie d'être, le savoir-vivre, le rugby français, le rugby champagne, le rugby grenoblois. Avec à ma droite, Steve Blanc, ma passe, troisième ligne centre, Oudel, de talent. Steve, bonsoir.
Salut Romain.
À ses côtés, le grand, l'unique, l'americano, l'un des meilleurs préparateurs physiques de la région et du monde, Ben Simon Cotte.
Salut Romain.
Et à ma gauche, Gaëtan Bouzac, conseiller technique à la Ligue.
Salut Romain.
Bonsoir. Tout va bien, messieurs ?
Écoute, très bien. Hein.
On est en pleine bourre, je sais que vous sortez d'un petit tournoi de pétanque, messieurs.
Ouais, c'était plutôt détendu cet après-midi quand même.
D'ailleurs, finaliste, Ben.
Et ouais, j'ai laissé ma place en finale pour être ici.
Quel talent, et on t'en remercie.
Avec plaisir.
Alors, on va parler un peu pêle-mêle des résultats, premièrement, du top 14, de la Pro D2, de la Fédéral 1, principalement, et un peu des matchs régionaux. Voilà, c'est ça, c'est pêle-mêle. C'est la bande à gogo, messieurs. Voilà, on va parler tout premièrement de ce match entre Toulouse et l'Ulster. 36-8, la qualification pour la demi-finale de la Henken Cup. Messieurs, on a vu un grand Cheslin, Colby, tac, dans l'intervalle, magnifique. Steve, tes impressions sur ce bonhomme ?
Ah, c'est un sacré joueur. Il n'a pas été élu pour rien l'année dernière du meilleur joueur du monde et de France. Donc non, c'est un sacré phénomène.
Comment, messieurs, un petit gabarit comme ça, avec des appuis de folie, arrive à vraiment faire des différences ? Sincèrement, on n'a pas vu un joueur comme ça depuis quelques années. À part Robinson il y a quelques temps avec l'équipe d'Angleterre. Ben ?
Alors moi je trouve que c'est quelque chose qui fait quand même plaisir. Depuis quelques années c'était la course à l'armement. Il fallait avoir les joueurs les plus lourds, les plus solides. Et au final on se rend compte qu'aujourd'hui ceux qui font la différence c'est pas forcément les plus lourds. Comme on voit Colby, sur chaque match il fait la différence. Donc moi ça me redonne un petit peu espoir dans le rugby moderne. À voir que la vitesse, l'évitement, aujourd'hui ça peut être une arme clé. Et que du coup, ça va peut-être changer un petit peu les profils recherchés par les clubs sur le haut niveau.
Ouais, tout à fait, parce que le rugby était un peu stéréotypé les derniers temps. On voyait des ailiers à 140 plombes, il n'y avait plus de juste milieu. Toi, Gaët, tu vois, tu bosses à la Ligue, tu vois un peu de tout, toi aussi. Et ouais, ton avis sur cette différence de gabarit qui se passe, il faut vraiment qu'on retrouve une homogénéité, ça serait bien pour le rugby français, quoi.
Complètement, ouais, c'est quelque chose qui va évoluer, qui évolue déjà, et puis avec les changements de règles actuels, c'est quelque chose qui favorise le jeu de mouvement. Encore une fois, on regarde Toulouse-La Rochelle sur le match de top 14 la semaine dernière, le dernier essai, il est clair du jeu qui doit être développé aujourd'hui, quoi.
Ouais. On a Hugo Mola qui fait un travail à Toulouse qui est quand même sensationnel. Il a eu beaucoup de mal à ses débuts. On va dire que ça a été très compliqué pour lui. Je pense qu'à l'heure actuelle, on peut lui tirer notre chapeau parce qu'il y a eu beaucoup d'abnégation de sa part. Messieurs, je pense que c'est l'entraîneur. Toi, Ben, t'es prépa physique, t'es l'allié des entraîneurs, on va dire. C'est quand même un métier qui est prenant, où on a la pression constamment.
Ouais, c'est clair. C'est clair, surtout à ce niveau-là. Enfin, je vois pour Toulouse en top 14. Ils sont peut-être 6 ou 7 équipes armées jusqu'aux dents, avec les meilleurs joueurs à leur poste. Et malgré ça, il faut quand même faire la différence, quoi. Entre Toulouse, le Racing, La Rochelle, Toulon, Bordeaux, toutes ces équipes, ils ont des joueurs très performants à tous les postes. Donc il faut trouver le petit plus pour faire la différence et se hisser vers le haut de ce classement. Je pense qu'en ce moment, il y a Toulouse, il y a le Racing et il y a Bordeaux qui font les choses vraiment... de façon admirable. Donc c'est vrai que pour nous, à notre niveau, s'inspirer de ces équipes-là, c'est hyper enrichissant et on essaye de tirer vers ces choses-là, quoi.
De toute façon, j'ai l'impression, messieurs, qu'en top 14, il n'y a plus de petites équipes. À chaque rencontre, c'est rugueux. Il y a du contact de folie, il y a de la vitesse foudroyante, ça va dans tous les sens. Le top 14 a vraiment changé depuis quelques années. Steve, toi qui... Bon, t'es en Pro D2. Peut-être l'année prochaine, je l'espère, une ascension avec le FCG, peut-être. Mais tu vois bien que le niveau évolue d'année en année.
Ouais, bien sûr, c'est sûr que ça, y a beaucoup plus de vitesse qu'avant. Bah forcément, comme le disait Ben, les joueurs sont quand même préparés différemment. Il y a beaucoup moins de comment dire, de joueurs très lourds. Donc maintenant, ça se déplace beaucoup. Ils on demande de la vitesse, de beaucoup d'adaptation. Donc ouais, c'est un autre rugby et c'est même plus plaisant à jouer, quoi.
Tout à fait. Tout à fait. On va passer maintenant, messieurs, sur la qualif historique de Bordeaux. Bordeaux avec un travail fantastique du solide Christophe Furios qui est là. Il est là, il est présent avec sa gouache. Il emmène son escadron, sa bourgaderie. C'est franchement ce qu'il fait, ce monsieur, depuis plusieurs années dans le rugby français. On va dire ça fait 20 ans. 20 ans qui nous fait plaisir, il est là, il a des choses à dire, c'est de but en blanc, pif paf pouf, il est là. Gaët, t'en penses quoi de ce monsieur?
Bah, c'est un grand monsieur, hein. Il le prouve par ses résultats, partout où il est passé, c'est très bien ce qu'il fait. Oyo, il y va, il qualifie Oyo pour les playoffs, à Castres, il est champion de France, à Bordeaux, il finit premier avant le Covid. Il y a tout qui plaît dans sa faveur, quoi.
C'est exceptionnel ce qu'il fait. Puis c'est un entraîneur attachant quand même. C'est voilà, il a ses coups de gueule, mais c'est un passionné. Faut dire ce qu'il est. Il est là, c'est un monument du rugby français, messieurs, hein, si je peux me permettre. Hein. On est bien d'accord avec sa victoire là, 23-14 contre Édimbourg. Il a mis tout le monde d'accord et c'est de bon augure pour la suite. Le prochain match, ils vont retrouver Bristol avec le fameux Radradra. Ça va être encore tonitruant, de la puissance, des intervalles. Va falloir être solide en défense, Steve. Toi qui es exceptionnel en défense. Radradra, comment tu le prendrais, le Radradra?
J'ai eu la chance de le jouer avec Grenoble l'année top 14.
Ah oui, c'est vrai.
Et, je ne l'ai pas pris. Hein. Il était très vite. Et c'est l'un des meilleurs joueurs que j'ai joué de toute ma carrière pour l'instant. C'est comme tu dis, c'est solide, c'est rapide. Ça sait tout faire, donc c'est assez dur.
C'est ça, ça sait tout faire, sauf le jeu au pied, hein, pardonnez-moi. Bah, c'est un peu le cas de tous ces joueurs un peu des îles.
C'est pas le point fort des Fidjiens, oui.
C'est ça, tout à fait. Et on va passer à un autre sujet. Un talent qui va nous manquer du côté du rugby français. Maxime Mermoz, 34 ans. Il avait plus de club. Il est retraité, 35 sélections. 3 Coupes d'Europe, messieurs. Avec Toulon, ça c'est quand même fantastique. 3 Brennus avec Perpignan, avec Toulouse et avec Toulon. Toi Gaët, on perd quand même un monsieur du rugby français. Ça fait mal au cœur, sincèrement.
Bah, c'est clairement un changement de génération. Puis qui plus est, qui fait partie de la mienne, que j'ai eu la chance de côtoyer. Et effectivement, c'est une passation de génération, quoi, avec... tous ces autres joueurs qui arrivent derrière, mais ça fait du bien aussi, un petit peu de renouvellement quand même.
Ouais, c'est clair. Messieurs, vous, vos avis, il a quand même brillé en équipe de France, ça a été un maillon essentiel, pour moi, du 15 de France pendant quelques années. Ben ?
Ouais, non, c'est clair. Après, j'ai pas trop suivi les raisons pour lesquelles il décide d'arrêter, alors qu'il était, il était sur les listes de joueurs disponibles. Il a sûrement des très bonnes raisons. Après, à 34 ans, moi, j'ai vécu la chose il y a 2 ans, là, quand j'ai arrêté de jouer. On le sent en tant que joueur, on sent que...
On n'a plus envie.
C'est pas vraiment qu'on n'a plus envie, mais en fait, on tombe un petit peu dans une routine de joueur. Et en fait, on se rend compte qu'il y a plein de choses à côté. Que la vie est hyper diversifiée et que peut-être il a ressenti le besoin d'aller voir un petit peu ailleurs et de tenter des nouvelles choses. Et enfin, je peux le comprendre entièrement, quoi. Après, pour nous, spectateurs, c'est clair que son arrêt, c'est dommage pour la beauté du rugby. Mais peut-être que pour lui, je lui souhaite que ce soit le bon choix. Et je pense que
tout à fait.
C'est ce qu'il fait.
Après, je pense qu'il va retrouver sa famille, il va revenir sur les bases, les fondamentales, il va recréer du lien avec ses amis. Voilà, c'est une autre vie qui va démarrer. Toi, Steve, t'es encore jeune, je crois que t'as 30 ans.
30 ans, oui.
T'y penses un peu?
Ouais, bah ouais, forcément, hein, parce que je suis plus proche de la fin que du début. Mais ouais, j'essaye de bosser de mon côté tout doucement pour essayer de travailler sur la reconversion. Et voilà, alors, même si je refuse de, pour l'instant de dire que c'est dans pas longtemps, voilà, tout doucement c'est dans un coin de ma tête, mais bon, je reste concentré quand même sur le rugby parce que je suis encore en pleine forme et voilà, j'ai encore de belles années, je pense.
C'est clair. Et pour dire deux, trois mots sur la reconversion, c'est vrai que. Il y a très peu de joueurs, bon, plus maintenant qu'à l'époque où moi je jouais, qui pensent à la reconversion. On va dire, moi, j'ai Thomas, mon frère, qui réussit une reconversion, il n'a pas arrêté, mais qui est chef d'agence dans des agences d'intérim. C'est une belle reconversion. On a Jérôme Ray qui tient encore sa ferme, le pilier qui jouait avec toi, Steve, qui tient encore sa ferme, c'est fantastique. Mais on a encore des joueurs qui, quand ils arrêtent, eh ben, ils sont dans un trou noir, dans une spirale, et c'est compliqué d'en sortir. Mais on va dire que c'est vrai que les clubs, maintenant, ben, s'attachent à ce que les joueurs, quand ils finissent leur carrière, eh ben, ils aient un point de chute, quoi.
Ouais. Après, chaque joueur est différent. C'est souvent les jeunes, quand ils sortent de centre de formation et qu'ils n'ont pas connu... la vie active, on va dire, pas la vie active, mais la vraie vie à côté, à se lever le matin pour aller au boulot, etc. C'est tout de suite plus compliqué. Donc voilà, après, j'ai l'impression, comme tu dis, que les clubs essaient de faire en sorte de les aider. C'est toujours pareil, hein, c'est où ils ont envie d'accepter d'être aidés pour bosser là-dessus, ou alors ben, ils en font qu'à leur tête. Et puis ben, le jour où t'es pas conservé, ben, après, ça, je pense que t'as une petite chute quand même.
Ouais. D'ailleurs, ça nous fait une excellente transition avec Gaët, dont on en parlera après. Lui, il lui est arrivé une petite, enfin une grosse misère. Et il a été soutenu par la famille du rugby, ce qui lui a permis d'obtenir un emploi. Mais on en parlera après, Gaët. Hein, ça a été quelque chose de fort émotionnellement parlant. Ça a été fantastique pour toi d'un côté, et à la fois, ça a été dramatique. Mais ta famille du rugby ont été présents, toujours là derrière toi, et ta famille aussi, ta propre famille.
Ouais, carrément. Ouais. Après, la famille du rugby, c'est une belle famille, une grande famille. Et la misère dont tu parles, c'est une semaine après le match à Chambéry, ouais. Le 12 janvier 2012, le 22 janvier, pardon, et la semaine d'avant, on avait joué à Chambé, contre Steve d'ailleurs.
Ouais. Et Thomas, l'éléphant fantastique.
Et Thomas, effectivement.
Je sais pas si il y avait
2012 devait être aussi, ouais. Je crois. Hein.
Il était là encore plein de cannes, l'ancien Sprinter, là, on en reviendra après.
Vous avez une sacrée série en 2012, hein. Ça rigolait pas. Hein.
Ah, c'était une série choupe à choupe, ça.
On avait fait un très gros match en plus, vraiment. Enfin, je jouais avec ses seins et,
ouais,
et ça a vraiment été un gros match. Et à la mi-temps, le score était très serré. Et jusqu'à la fin du match d'ailleurs, parce que je crois que ça finit à plus 7 pour Chambé. Il me semble bien qu'on rentre avec le bonus, je ne veux pas dire de bêtises, mais. Et c'était compliqué, mais. C'était très sympa.
Ouais. Mais on reviendra sur toi après, Gaët. Ouais, c'était un match accrocheur, ça. C'est voilà, de toute façon, Chambé, c'est toujours rugueux. C'est sain, fut intense. Et c'était aussi très peu académique, si je peux me permettre. On sentait du pif paf pouf dans tous les sens. Voilà, on va basculer sur un peu les matchs qui ont eu lieu ce week-end. On a eu, je suis désolé d'en parler, Steve, le nul. À la maison contre Montauban, le retour de Mike Tadger sur la pelouse du Stade des Alpes. Il était content, lui, par contre. Hein, c'est un bon point de prix pour eux. Voilà. On a eu la victoire de Chambéry, bien entendu, avec l'inévitable Thomas Gossi, l'ailier de folie, qui s'est cassé le nez durant cette rencontre. 21-18, la victoire contre Massy, favori de la poule. Vous deux, les anciens joueurs de Chambé, c'est le gros coup du week-end, pardon messieurs, incontestablement.
Ouais, moi j'étais pas au match, je sais pas si t'étais au match.
Alors, pour ma part, j'ai pas été au match non plus.
Mais j'ai eu pas mal de retours de gens qui y étaient, et apparemment c'était pas mal à voir. Hein. Massy a proposé du jeu dans tous les sens, de vitesse, du beau rugby, et Chambé en retour a proposé une bonne bagarre, un truc costaud quoi, du ferraillage devant, ils les ont pris dans les mauls, ils les ont pris en mêlée, en conquête.
Ouais, grosse mêlée de Chambéry à noter avec Salandria, c'est quand même solide.
Du coup, une belle différence de style sur ce match. Chambé, on n'avait pas l'habitude de le voir dans ce registre-là. Et ils ont répondu présent et sur les basiques, ils ont gagné ce match. Quoi. Ça, ouais. c'est, ça fait ouais, bien ouais. plaisir.
Avec Yann Kaya qui a performé aussi ce week-end en position de 10, qui a été excellent buteur. Yann, ça a été... Voilà, chapeau à toi Yann. On a eu en fait deux, là, la victoire de Voiron, 33-26 face à Annecy. Ça aussi, bon coup à domicile. De toute façon, il faut que ça devienne une forteresse, la Fédérale 2. Si tu ne gagnes pas tous tes matchs à domicile, c'est compliqué d'exister. Toi, tu t'en souviens, Gaët, avec ses seins. C'est sûr que, voilà, à domicile, tu es obligé de mettre les barbelés dans le casquet et de, faire de mettre la courge, quoi.
Ouais, après, tout est relatif, ça dépend contre qui. Hein. On va cibler des matchs, effectivement. Après, les gros cadors, on essaie de s'accrocher. Les cadors de ces années, hein, Chambéry, Marseille, la Voulte, le Rock, etc. Enfin, c'était trop compliqué.
Marseille, qui était solide à l'époque, moi aussi, je les ai joués. C'est. Franchement, j'ai pris des bourre-pifs plein le match, quoi. J'étais sorti, j'étais quasiment aveugle, j'avais plus l'autre œil. Franchement, messieurs, je vous le dis, à Marseille, ils sont pas là que pour boire du pastaga, les gonzes. Hein. Ouais, championnat régional, maintenant, les gars, RCG, Racing Grésivaudan, 22-22 au Mol. Belle prestation à l'extérieur pour un premier match de championnat. On a Lamure. Qu'ils ont gagné à domicile contre le CSN de Gaët, 26-24. Bah, Lamure, c'est aussi un peu la Bérésinade là-bas. On va là-bas en plein hiver, on ne ressort plus, messieurs. Hein. Je vous le dis. Hein. Et la Motte, comme battu le club de cœur de Steve. Si on peut. Ouais, tu as été formé
bien
là-bas.
Bien
hein.
À
25-0, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as eu un peu des échos ou...
Ouais, un petit peu. Bah, apparemment, la Motte a fait un très bon match avec une bonne petite équipe qui a bien recruté à l'intersaison, ouais. Apparemment. Et le Souha a eu quelques changements, donc je pense qu'ils sont encore pas forcément au point et ça va venir progressivement.
Ouais. C'est clair, c'est que le début de saison, la mayonnaise doit prendre, de nouvelles recrues, des départs. D'ailleurs, à la Motte, il y avait un petit, je sais pas si vous en souvenez, le cousin de Mimi Machi.
Thomas Ramos.
Thomas Ramos, si tu nous entends.
C'est un ami.
C'est un ami à toi.
Bien sûr.
On lui passe le bonjour, ben sincèrement. Ouais. Petit par la taille, mais grand par le talent, messieurs.
Ouais, et présent dans le combat, attention. Hein.
Ouais, c'est clair. Je l'avais joué, bah, je lui avais mis une percu, il avait fait roustouflette en arrière, mais bon. Mais après, franchement, dangereux sur les appuis, Thomas Ramos, hein. Thomas Ramos, big up à toi. Il joue encore, le petit?
Bien sûr.
Bah, feu follet, si tu nous écoutes, Anki des essais cette année, bonne saison à toi. Voilà, messieurs, on va passer à l'instant portrait que j'affectionne énormément, messieurs. On va commencer par notre américaine de la journée, cette star des States, Ben. Tu es l'essence même du rêve américain.
Bah, j'habite en Chartreuse quand même. Hein.
Oui, mais je vois loin. Une carrière rondement menée, on pourrait dire que c'est ta route 66 à toi. Toi, le fan de la série Son of Anarchy, en 2015, tu franchis le cap afin de t'exprimer sur deux roues. Tu décroches le permis moto. Pour t'évader dans les contrées les plus lointaines. D'une gentillesse inégalable et d'un humour incomparable. Toi, l'amoureux de la nature, mais aussi l'ancien sprinteur à la Usain Bolt, version chambérienne, tu étais un gros finisseur sur le terrain. Ce qui t'a permis d'être deux fois champion de France avec les éléphants. Excellent souvenir.
Ah, c'est clair, sacré souvenir, hein.
Aujourd'hui, tu es l'un des meilleurs préparateurs physiques de l'Amérique sud-grenobloise. Tu n'hésites pas à être un artiste durant ton temps libre en créant de tes propres mains, je le dis bien, de tes propres mains, un smoker barbecue afin de partager des moments conviviaux avec ta famille et tes amis. Petit coup de projecteur maintenant sur ta vie privée, désolé. Toi, le patriote, tu as été marié par un célèbre pasteur écossais, le célèbre Tom McGossie, auteur d'une remarquable cérémonie, lui l'ancien comique de Brooklyn Street. Que Dieu bénisse l'Amérique. Alléluia, mes frères.
Je savais qu'il allait être très bon dans ce profil.
Tout à fait. Ce petit portrait vous a fait plaisir, je l'espère.
Bravo, je ne m'attendais pas à ça, bravo.
Merci, c'est un talent, hein, j'ai envie de vous dire. Ouais, hein.
C'est vrai, c'est vrai.
Je voyais, il y a une petite larme qui en même ça l'a ému. Ça.
Heureusement, on est à la radio, on voit pas ça. Ouais.
Tout à fait, tout à fait. Steve, toi l'ancienne esthète, remembers. Steve, 1m90 pour 95 kilos hors taxes.
J'ai grossi du tout.
Arrivé du côté du Soc aux alentours de tes 18 ans et après une formation au SOA Albertville, tu deviens rapidement un joueur clé du pack chambérien. Rugueux, élégant ballon en main et une formidable capacité à se déplacer. Tu es un véritable troisième ligne des temps modernes. Meneur d'homme et à la fois leader de tout un groupe, tu es l'exemple même de la solidité défensive que dégage ton équipe grenobloise. Toi, l'amoureux des montagnes, tu as su gravir les sommets les uns après les autres. On n'en doute pas. Sûrement avec le soutien inconditionnel de ta bande de potes d'Albertville. Après ton exil à Vannes... Non, pardon. Juste avant, toi aussi, tu as remporté 2 titres de champion de France avec Chambéry. D'ailleurs, les échos du week-end, tu manques à tout le monde là-bas. Marcel, Jocelyne et Tutti Quanti. Après ton exil à Vannes, comme vendeur de crêpes au Sarrasin... Tu fais le choix de revenir non loin de tes terres en signant au FCG, où tu es à l'heure actuelle un des maillons forts du pack isérois et l'un des meilleurs joueurs de Pro D2. Je te souhaite une bonne saison et tout le bonheur du monde.
C'est gentil, merci beaucoup Romain.
Mais de rien, ça t'a plu ?
Ouais, vraiment sympa.
Merci, ça me touche. Je vais pleurer d'un œil hein, sur ma vie, hein. Faites-moi pas ça. Hein. Gaëtan, je vais garder ton portrait après cette séquence fort en émotion, messieurs. Voilà, c'est un peu style Julien Cazard dans le Canal Football Club. Gaëtan, je vais garder ton portrait pour après parce que on va finir un peu avec toi sur tout ce qui s'est passé dans ta carrière et aussi ton renouveau. Voilà, je vais vous parler, messieurs, de la reprise des championnats, tout championnat confondu, que ça fait du bien, autant pour les spectateurs que pour les joueurs. Que pour tout un staff technique. D'ailleurs, staff technique, Ben, on va reparler rapidement du stage à l'Alpe d'Huez qui s'était passé en début de saison et de comment t'as préparé ça avec... Il y a eu le Covid, il y a eu toutes ces restrictions et comment s'est passée cette préparation physique ?
Bah là, on a pas fait de stage, hein, du coup. On est resté au camp de base... La plupart du temps.
D'accord.
On a réussi à monter un petit peu en station ouais. Parce qu'on a la chance d'être au milieu des montagnes. Donc pour nous, c'était plutôt facile. Maintenant, privé de stage à cause des mesures sanitaires. Après, finalement, on s'est dit soit on se morfond, soit on prend ça comme une opportunité. Et au final, on a eu 3 mois pour préparer les mecs.
Ouais.
Donc sincèrement, en 3 mois, on n'a pas perdu notre temps. On a réussi à mettre en place des choses qui d'habitude sont impossibles, parce que d'habitude c'est une course, tu reprends après les vacances, tu as 7 semaines de prépa, match ouais. amicaux inclus pour démarrer le championnat en semaine 8.
Très compliqué.
Donc d'habitude, tu as à peine le temps de les remettre à peu près à niveau au retour des vacances, qu'il faut déjà commencer les matchs amicaux, puis on pense au championnat et c'est déjà parti. Quoi.
Les premiers matchs amicaux, il y a eu un peu de peur, peut-être pour les joueurs, avec tout ce qui se passe en ce moment, de se frotter un peu. Il y avait aussi de l'envie, mais peut-être un peu de peur, non ? Steve ?
Bah alors moi, personnellement, je l'ai eu, le Covid, donc au début mars. Donc non, c'était pas forcément de peur par rapport au Covid, c'était surtout un peu d'appréhension. Pendant 6 mois, on n'a pas joué, c'est surtout les réflexes, de bien avoir les bons positionnements, etc., les bons réflexes. Donc c'était plus ça, un peu d'appréhension. Donc c'est vrai qu'au début, on a eu la réflexion de pas mal de personnes, comme si on n'avait pas envie, comme si on n'avait pas de niaque, mais sauf que c'est pas forcément évident quand on n'a pas joué depuis 6 mois de retrouver ses repères.
Après, il y avait une envie folle aussi, de toute façon, faut pas se le cacher, ça manque, le terrain manque, et voilà, t'avais qu'une envie, pas d'en découdre bien sûr, mais vraiment, t'avais à cœur de refouler la pelouse.
Ouais, surtout que la préparation était longue, donc on était content de retrouver les matchs et retrouver les semaines de matchs parce que faire de la muscu c'est bien, mais c'est bien aussi.
C'est clair, c'est lassant. Et toi Ben, comment tu prépares tes séances d'avant-match ? Est-ce que ce sont toujours les mêmes ou t'essayes globalement enfin de varier, de proposer un autre contenu à tes joueurs ?
Non, En fait, on essaie de construire une structure pour notre semaine.
Ouais.
Et dans cette structure, on varie un petit peu, mais la structure de la semaine se ressemble beaucoup. Après, à savoir aussi que cette saison, on peut jouer le jeudi, le vendredi, le samedi ou le dimanche.
Ouais.
Donc au final, même en gardant une structure, nos semaines ne se ressemblent jamais. Parce qu'il y a toujours un jour off qui ne tombe pas au même moment, des semaines courtes, des semaines longues. Honnêtement, jusqu'à aujourd'hui, bon, on a fait que 4 semaines de championnat, mais on se rend vite compte qu'aucune semaine va se ressembler.
Ouais, c'est sûr. Donc, et on me dit dans l'oreillette que toi aussi, avant de faire effectuer les tests physiques aux joueurs, tu te les octroies, t'y vas, tu les prépares seul, tu te performes afin de donner un contenu de qualité à tes joueurs.
Ouais, après c'est toujours bien, je te dis pas que je fais toutes les séances,
oui.
mais c'est bien aussi que les joueurs voient qu'on n'est pas là posé sur notre banc à les regarder travailler, qu'ils voient que aussi nous on est capable d'endurer des moments difficiles, et après ça instaure une petite confiance entre nous, et je pense que les joueurs l'apprécient et s'engagent un petit peu plus en voyant que le prépa physique n'est pas un échappé de son côté, quoi.
Ouais, tu m'étonnes, parce que bon, sans me donner de nom, on en a connu des échappés, hein, franchement. Mais bon, on va reparler aussi de cette préparation, on va dire, à l'intérieur de la cellule de la Ligue. Comment ça s'est passé, cette préparation qui a été tronquée? Il y a eu des protocoles sanitaires qui ont été mis à disposition par le ministère de la Santé. Toi, Gaëtte, comment tu t'allais expliquer ça au club? Comment tu as géré ça avec la Ligue?
Alors déjà, nous, moi j'ai pris mon poste le 10 août,
ouais.
Donc jusqu'à présent j'étais en chômage partiel. Après, nous, on a simplement transmis les directives qui arrivaient de la Ligue avec les Covid managers de Ligue, puisque c'était très échelonné. Par contre, il y avait un Covid manager de Ligue qui appartenait à la cellule Covid de la Fédé et qui redescendait aux Covid départementaux. Ouais. Et les Covid départementaux, derrière, il y avait des Covid managers de club. Donc en fait, c'était très simple. Nous, on a simplement accompagné les protocoles mis en place par la Fédé et qui était plutôt clair. Alors, ouais. Je ne les ai pas vécus en club, mais Steve et Ben, ils peuvent en parler, je pense. Les protocoles, les protocoles de reprise, ils étaient très clairs, très carrés, et les clubs savaient ce qu'ils avaient à faire, quoi.
D'accord. D'ailleurs, on reparlera de tout ce qui est protocole et test Covid après, parce que pour moi, c'est aussi un point clé, et c'est essentiel de rassurer tout un groupe et de proposer des solutions aux joueurs qui peuvent être touchés ou qui peuvent être atteints. Et je pense que la Ligue a très bien fait son boulot par rapport à tout ça, à ses protocoles et à la mise en garde de cette merde qui nous accapare en ce moment, quoi.
Après, oui, bien sûr, ils ont bien fait le taf. Hein, et puis, sachant que la plupart de ceux qui ont fait le taf, c'est des bénévoles.
Ouais.
Donc, c'est quand même pas négligeable. Et c'est vrai que c'est très bien respecté dans les clubs, pour la plupart, hein, bien entendu. C'est très bien, vraiment très bien. Félicitations en tout cas aux bénévoles de la Ligue.
On remercie tous les bénévoles, hein, qui ont fait un boulot formidable. Messieurs, on va revenir sur Gaëtan après, sur son rôle. On va parler plus particulièrement de son rôle à la Ligue, de la gestion des clubs dont il s'occupe. Voilà, on va faire une petite pause en musique avec Survivor, la BO de Rocky, messieurs. We'll be right back.
La bande à gogo. Chaque mardi 19h, l'émission 100% rugby de RKS.
Et on est reparti pour la deuxième partie de l'émission de la bande à gogo avec Steve Blamapaz, le flanker de folie du FCG Rugby. Avec notre préparateur physique exceptionnel et talentueux, Ben Simon Cotta. Et notre conseiller technique à la Ligue, Gaëtan Bouzaka. On est reparti, on va repartir calmement, dans une douceur la plus agréable possible, avec un petit poème d'une internaute qui s'appelle Lucie. Messieurs, soyez à l'écoute. La crinière de Jean-Pierre Rive, les cuisses de Papa Ramborda et Fourou qui se faufilaient partout. Scrella, Blanco et plein d'autres. Je gueule, et c'est. J'aimais le rugby depuis mon canapé. Et les nouveaux, Ibanez, Chabal. J'épluche le calendrier des rugbyman dénudés que je refile aux copines. J'aime toujours le rugby depuis mon canapé. Je gueule, et c'est putain con. Mais quel couillon cet arbitre. Voilà, c'est un petit poème d'une petite internaute. J'ai trouvé son attention super. Voilà messieurs, c'est une petite qui a écrit ça. Sincèrement, c'est touchant.
C'est très beau, c'est très beau.
Merci à vous. On va revenir sur Gaëtan, notre beau conseiller technique.
De club, je précise pas la Ligue. Hein. Oui, je suis employé par la Ligue, mais conseiller technique de
Tout
club.
Tout à fait, tu vas nous expliquer d'ailleurs ton rôle. Après, bien sûr, toi aussi, tu as le droit à ton petit portrait que je veux te raconter avec passion. Gaëtan Bouzac, première ligne au grand cœur, fort à l'impact et doté d'un dynamisme de folie. Gaët marqué de son empreinte chaque match auquel il a pu participer. Depuis son premier âge, il tâte le ballon du côté du plateau matézin et part ensuite du côté de Jarry pour suivre son papa. Tantôt pilier ou talonneur, son chemin se poursuivra du côté de Vif et ses belles montagnes, où l'accomplissement de tant d'efforts, Gaët signe un tutorat avec le SCG, avec les Espoirs, où il n'ira pas pour faire figuration, il sera auteur de très belles prestations. Les connaisseurs du rugby régional auront le plaisir de le revoir par la suite du côté de Cessin, avant de continuer son épanouissement dans l'Ovalie en Fédéral 2. C'est un joueur de devoir, combattant et un amoureux de la gonfle. Et la vie en décide autrement. Un accident te prive de ce que tu aimes le plus. Ton sport, ta passion, mais aussi l'esprit d'un groupe. Ta famille, blanche et noire, ne te quittera pas et t'apportera tout son soutien dans cette nouvelle vie. Colosse au cœur d'argile, Cessin te propose de t'embaucher pour chapeauter et entraîner toutes catégories confondues. Et aussi les seniors un peu plus tard. Tes conseils sont précieux. Tu es l'élément fédérateur du club. Tout cela te vaut le privilège actuel d'être conseiller technique de club pour la Ligue. Pour moi, tu resteras l'un des mecs les plus attachants que je connaisse et l'un des meilleurs joueurs contre qui j'ai pu combattre. Tout ce que tu as, tu le mérites du fond du cœur.
Oula, mais c'est une vraie déclaration, ça, mon Romain.
C'est ce que mon cœur pensait. Voilà, ça m'a ému, j'ai eu un peu de mal durant ce petit portrait, parce que t'es quelqu'un de très touchant, mon Gaët, et je tenais à l'exprimer aujourd'hui.
C'est très gentil, Romain, merci.
Mais j'en
pense pas moins de toi.
C'est très gentil, ça me touche tout particulièrement, et j'ai la larme à l'œil encore une fois. On va parler de toi, Gaët, jeune conseiller technique à la Ligue. On va parler de ton rôle exactement.
Eh ben en fait, il y a des conseillers techniques de clubs qui ont été mis en place récemment. Il y en a 162 en France, plus des conseillers techniques de clubs professionnels comme à l'EFCG avec Benjamin Perrier. Et l'objectif principal, c'est d'accompagner les clubs dans leur structuration et dans leurs projets. et aussi d'accompagner les éducateurs dans leur formation continue et dans la formation fédérale. Voilà, on va dire que c'est les deux missions principales. Et ensuite, d'aider à structurer les clubs, notamment sur les écoles de rugby, et bien entendu pour essayer de regagner un petit peu des licenciés. Et voilà, c'est le job principal, quoi.
D'accord. Et à la base, c'était, si, comme tu as pu me l'indiquer, c'était une promesse de notre cher Nanar Laporte, ce poste, un peu, hein. Il a fait faut le dire, il a fait quelque chose bien.
Alors oui, c'est quelque chose qu'il a évoqué quand il candidatait à la présidence de la Fédération française de rugby. Et c'est quelque chose qui a été mis en place. Après, au-delà de la partie politique sur laquelle je ne me mêlerai absolument pas.
Tout à fait, cela ne nous regarde pas.
Effectivement, je pense quand même que ce qui a été mis en place, en tout cas sur les conseils techniques de club, c'est quelque chose qui, à moyen terme, portera ses fruits, je pense.
Bien sûr. Et toi, tu t'occupes de tout ce qui est dossier de club en général. Si tu peux nous expliquer plus dans les détails ton rôle au sein des clubs. Je sais que tu vas un peu à la rencontre des clubs. Tu fais beaucoup de travail sur computador, sur ordinateur.
Alors ouais, effectivement, on va à la rencontre des clubs. Tous les conseillers techniques de clubs, ils ont ce qu'on appelle un bassin. C'est un bassin géographique de clubs, tout simplement. Qui a été découpé suivant les proximités. Moi, je suis dans le bassin sud Dauphiné, qui part de Saint-Égrève et qui monte jusque sur le plateau Matézin.
Ouais.
Voilà.
Terre de ton enfance.
Ouais, exactement, ouais. Et voilà, la particularité, c'est que les conseillers techniques de clubs professionnels, c'est les clubs professionnels qui choisissent, en tout cas, leurs clubs partenaires avec qui ils veulent travailler. L'idée vraiment, c'est comme tu disais, on ne s'occupe pas des dossiers des clubs, mais on les accompagne dans leur structuration. Vraiment, c'est vraiment on est vraiment des supports d'accompagnement, quoi.
D'accord.
Et de développement.
Donc tout ce qui peut être, par exemple, je vais dire ça pêle-mêle, problème administratif, tu peux peut-être subvenir aux besoins du club sur un souci comme ça ou sur des licences. Je sais que les mutations, c'est séparé. Toi, qu'est-ce que t'apportes raconte-nous quelques soucis que peut avoir un club, quoi.
Bah, typiquement, un club, il peut avoir des difficultés à gérer les licences avec la plateforme Ovali qui a été mise en place il y a quelques années. Donc, ouais, effectivement, ça fait partie de nos caractéristiques à les aider, à les accompagner. Ça peut aller de... Vraiment, on a un champ d'action qui est très large, quoi. Et on a un champ d'action technique sur le terrain et un champ d'action aussi administratif où on les accompagne, comme tu disais, sur toutes ces choses-là, sur la déclaration d'accident, et puis ça va même jusqu'à la structuration professionnelle où on peut les accompagner s'ils souhaitent embaucher quelqu'un en BPJEPS, ouais. Un service civique, on les accompagne.
C'est quand même très, très global, tu as une polyvalence assez exceptionnelle pour cet emploi, il faut dire ce qui est, tu as les qualités pour, hein.
Ça, je pense que je dois avoir des qualités si j'ai été recruté.
Moi, je te le dis, tu as des qualités comme tu avais... des qualités sur le terrain. Et je voulais revenir à ce 12 janvier.
22 janvier, je me suis trompé.
Le 22, pardon, à ce 22 janvier 2012. Une semaine avant, tu jouais contre Steve, ici présent.
Ben aussi.
Peut-être contre l'ailier américain qui était là. Et contre le charbonneur Thomas Gossi.
Quel sens, charbonneur?
Pardon?
Dans quel sens tu l'utilises, charbonneur?
Je n'ai pas envie de m'étaler sur le sujet. Il est très connu dans la région chambérienne, mais cela ne nous regarde pas, messieurs. Non, mais sans transition aucune, voilà, Gaët, on va faire un peu de prévention aussi ce soir, 2-3 minutes. Le 12 janvier, ça a été un jour dramatique. Je te laisse t'exprimer, je sais que c'est compliqué.
Bah, c'est compliqué maintenant, j'ai fait clairement le deuil de ça. Hein. Ce fameux janvier était compliqué. J'ai subi, on va dire, le geste d'une personne pas très catholique sur l'intérieur.
Académique.
Académique, oui, exactement. Et qui a mis un terme à ma carrière, clairement, puisque j'ai fait 24 mois de rééducation, que ce soit j'ai fait quasiment un an en fixe et après en hôpital de jour.
Tu as été en fauteuil?
Ouais, j'étais tétraplégique. Aujourd'hui, je suis tétraparésique. Donc il y a une petite différence.
Ouais.
Tétraplégique, c'est souvent, ils ont plus de fonctionnalités moteurs. Et tétraparésique, moi j'ai des parties sensorielles et sensitives de mon corps qui déconnent. Quoi. Et juste encore jusqu'à il n'y a pas si longtemps.
T'as dû complètement apprendre à, on va le dire, à revivre.
Ouais, c'est ça, ouais, je revis complètement de plein de choses. Alors, il y a plein de choses qui évoluent, hein, faut pas regarder que le négatif. Hein,
bien
ouais.
sûr.
Et au-delà de ça, je retiens vraiment une chose de ça, c'est que ben, je suis pas à plaindre, déjà. Ouais. Et que j'ai vu des gamins, et il y en a un qui est décédé avec qui j'étais en ouais, centre d'éducation, ouais. qui avait 15 ans.
C'est ça.
Je suis pas vraiment pas à plaindre. Mais c'est quelque chose qui permet d'avancer dans la vie. Ouais.
C'est sûr, après, ben, ça reste, voilà, le handicap, c'est quand même lourd à porter. Moi, je suis aussi cautionnaire d'un handicap. C'est pas évident à vivre tous les jours. On est là dans... Les gens nous dévisagent souvent quand le handicap est physique. Ça, je le cache pas. Et quand il n'est pas physique, ben, les gens, ils sont aussi ingrats, faut le dire aussi.
Ben, ça se voit pas, donc c'est... Effectivement, il y a pas de... Enfin, je pense que quelqu'un me voit dans la rue, il se dit pas il est handicapé, enfin, clairement.
Hein, ouais, ouais. Mais après, mais... ça a été quand même, je veux dire, c'est quand même une souffrance, même si les autres ne le savent pas. Il y a le regard des gens aussi, et nous, bon, moi, je sais pas pour toi, mais moi, ça me fait toujours quelque chose de ressentir le regard ou la pensée de quelqu'un d'autre. Après, on n'est pas dans les mêmes, dans le même contexte, c'est sûr, mais...
C'est pas pareil, ouais, après, c'est pas pareil, tu l'as dit. Mais toi, c'est quelque chose qui est plutôt visible. Moi, c'est ouais. quelque chose qui ne l'est pas, donc c'est différent. Et qui plus est, j'essaye vraiment de le cacher. Donc, c'est pas... Voilà, moi, je le vis très bien, honnêtement. Hein, je le vis très, très bien. Et ouais, il y a des hauts, il y a des bas. Des fois, je le cache pas. Hein. Il y a quelques années, c'est ma femme qui me sortait du lit parce que ouais. je n'arrivais pas à me lever. Enfin, voilà,
mais... D'ailleurs, je voulais en parler de ta femme, si je peux me permettre. Elle t'a soutenu ben, du feu de Dieu.
Ouais, alors...
C'est quelqu'un qui est... Oui, je sais, mais... Pas... Là, dans actuellement, et même au début où tu l'as rencontré, ça a été une personne qui tout de suite t'a pris comme tu étais et qui t'a élevé, qui t'a fait redonner confiance en toi. Faut dire ce qui est.
Ouais, c'est ça complètement. Ouais. C'est une personne qui m'a permis d'avancer et qui m'a mis des, si je peux dire, des grands coups de pied dans le cul en me disant, allez, faut que tu te bouges un peu, quoi.
Ouais.
Et puis il y a la force de la vie, il y a les enfants, il y a tout ça. C'est quelque chose qui pousse à avancer, tout simplement. Et puis au final, j'en retiens que le rugby, en fait, il faut que ce soit qu'un sport et que ce soit que du plaisir, quoi. Ouais. À quelques niveaux que ce soit, et que ce soit professionnel, comme ils jouent tous les jours Steve et Ben, et que ce soit là, au niveau amateur, on n'a rien à gagner, quoi. Enfin, il y a des choses à gagner, effectivement, mais
bien sûr.
On a beaucoup plus à perdre qu'à gagner, quoi.
Ouais. Donc, après, toi, si tu aurais un petit mot à dire sur... Voilà, toutes les personnes qui nous écoutent, pardon, il y en a des fois le dimanche qui font un peu les barjots sur le terrain, qui ne savent pas se placer, qui font n'importe quoi, qui donnent des coups à tire-larigot. Qu'est-ce que tu peux leur dire à tous ces gonces qui font n'importe quoi, je vais le redire.
Bah, si c'est simple, s'ils veulent mettre des coups de poing, des coups de pied, il y a des sports hein, qui existent, il y a la boxe, hein, tout simplement.
Ouais, tout à fait.
Ils y aillent, mais plutôt qu'ils laissent le rugby... Qui laisse le rugby au sport qu'il est, hein, ce qu'on appelle un sport d'évitement et de combat.
C'est ça. Mais et pour combat, moi, le rugby, c'est un art. C'est pas, on n'est pas là dans le foufou. On n'est pas là pour mettre des coups. Bah, quand il y a Mayoche. Mais les coups par derrière, c'est interdit.
Oui, ça, je suis bien d'accord. Après, le rugby, ça reste quand même un sport de combat. Faut pas l'oublier, hein, quand même. Mais,
oui, mais on en connaît. Les gosses, tous les dimanches, ils viennent derrière, pif, paf, pouf. Oh, tu fais quoi?
Le combat à la régulière, c'est le meilleur.
Mais bien sûr, tu es là, devant, bon, on se bouchonne et tout va bien, quoi.
Ah ouais, dommage. Ben, je me rappelle en avoir pris un ou deux bouchons par Steve.
Ah, Steve, la puissance incarnée, Steve, on va revenir un peu sur sa puissance après, là. D'ailleurs, je vais te remercier, Gaëtan, pour ce témoignage touchant.
Merci à toi, surtout.
Je sais que, ben, il faut faire de la prévention dans le rugby, on est à l'abri de rien. Et messieurs, ben voilà, le dimanche, quand vous mettez les crampons, mettez-les dans un bon esprit. Allez mettre la courge, profitez de vos copains, jouez. La passion, faire vivre le ballon et émouvoir vos supporters. Voilà, c'est le plus important. Messieurs, on va passer au pour ou contre. Le pour ou contre, les tests Covid. Voilà, on en parlait un peu à la pause, le test Covid dans... Déjà, en Pro D2, comment ça se passe, les tests Covid? Est-ce qu'on en a un chaque semaine? Je sais qu'à Chambé, c'est à quasiment toutes les semaines. Et vous, de votre côté, Steve et Ben?
Nous, on a un test Covid à chaque fois 3 jours avant le match.
Ouais.
À J-3 du match, on est testé. Et selon le nombre de cas positifs, on prend ou non des dispositions. On a droit jusqu'à 2 cas, il me semble. À partir de 3, il y a des mesures de confinement qui sont mises en place. Mais bien sûr, les joueurs qui sont positifs sont tout de suite mis en quatorzaine. Et ils sont bien sûr suivis par le staff médical. Nous, sincèrement, on est dans un fauteuil. Hein. On en discutait tout à l'heure, mais par rapport au club amateur ou même au club de Fédéral 1, bon, nous, tout est mis en place autour de nous pour nous faciliter le travail et prendre aucun risque avec la santé des joueurs. Donc, sincèrement, au début, c'était un petit peu contraignant pour nous, mais on s'est vite fait à ces tests PCR. C'est pas très agréable, mais c'est vite fait. Et au moins, on sait qu'on prend aucun risque avec la santé et le championnat peut se dérouler avec quasi normalement jusqu'à aujourd'hui.
Toi, Steve, de ton côté, tu peux nous en parler de tout ça, de tous ces tests, des précautions à prendre aussi ?
Eh bien, écoute, comme il a dit Ben, nous, c'est une fois par semaine, 3 jours avant le match. Ouais. Et bon, forcément, au début, c'était pas forcément pas agréable, mais c'était un peu chiant parce que voilà, il fallait faire ses tests et on était toujours dans la peur d'avoir des cas, etc., même si on l'est toujours. Mais voilà, là, on a pris le pli, je trouve que c'est plutôt bien rodé. Et voilà, maintenant, bah, c'est tous les mercredis matin, on va dire, on passe dans le bureau du bec. Et puis tout
le
ça
petit coton-tige voilà, dans le tarbouif et c'est parti, quoi.
Exactement.
D'ailleurs, pas très agréable, monsieur.
Ouais, moi aussi, fait à force.
Bah, c'est comme tout, la première fois est toujours la plus dure.
Absolument, monsieur, mais quel bel aparté, j'aime quand même. Quand tu te situes comme ça, quand tu donnes de la profondeur au jeu, j'apprécie. Gaëtte, à la Ligue, pourquoi pas proposer, voilà, on peut faire une pétition ou quelque chose comme ça, de proposer à des médecins bénévoles de venir tous les week-ends faire des tests Covid dans les championnats les plus rugueux de la région, première série, deuxième série, troisième, quatrième et ainsi de suite. Pourquoi pas ?
De toute façon, pourquoi pas ? Je peux pas te répondre déjà la première chose parce que je...
Mais tu peux lancer l'idée, tu peux en émettre le souhait, peut-être que tu seras écouté parce que c'est très important, monsieur.
Peut-être, mais j'ai pas les compétences en tout cas pour dire ce qu'il faut faire et ne pas faire, et c'est pas forcément de mon ressort.
Après, mais toi, tu penses que ça serait utile, sincèrement
Je sais pas si ça serait utile, mais comme on disait tout à l'heure, on en parlait à la petite pause, je pense que c'est quand même quelque chose qui est difficile à mettre en place, et si ça n'a pas été proposé, c'est aussi parce que je pense que ça a été difficile à mettre en place. Après je suis pas du tout compétent pour parler de ça. Absolument pas.
Mais tu en parleras de notre part, s'il te plaît. Messieurs, j'avais une question à vous poser. Moi, ça m'intrigue un peu. Il n'y a pas de rugby dans les quartiers français. Pourquoi ? Est-ce que ça serait une bonne opportunité pour les jeunes banlieusards de s'aguerrir, de faire ses armes avec le rugby français ? Steve ?
Bah si, du côté de Paris, pardon, je pense qu'il y en a. On voit à Massy qui sort beaucoup de joueurs.
Mais à Grenoble, où sont les Tollards, les Palieusards, les jeunes de Mistral, les jeunes de la Villeneuve ? Pourquoi pas faire des plateaux rugby là-bas ?
Bien sûr, je pense qu'il y aurait de belles surprises. Il y a toujours souvent de beaux athlètes. Ouais. Donc, ça peut se faire exactement. Mais après, c'est beaucoup de choses à mettre en place. Et c'est peut-être pas si facile que ça, donc je sais pas.
C'est vrai. Toi, Ben, tu pourrais proposer des petites séances physiques dans les quartiers nord de Marseille, par exemple.
Après, nous, je sais qu'avec les dirigeants du club, c'est un vrai souhait au niveau de la ville de s'implanter et d'être le club des Grenoblois. Mm-hmm. Et pas de seulement se limiter à ceux qui sont déjà aguerris au rugby, mais s'ouvrir à ceux qui ne connaissent pas forcément ce sport. Et Steve l'a dit, mais sincèrement, il y a des profils... Il y a des athlètes, il y a des vrais athlètes de partout et dans les quartiers comme ailleurs.
Bien sûr, mais je trouve qu'on n'y va pas assez dans le vif du sujet et il y a beaucoup d'athlètes qui sont laissés pour compte parce qu'ils ont des trajectoires de vie assez, un parcours à la fois atypique et à la fois dithyrambique, monsieur.
Après, je sais que c'est une vraie volonté du club de mettre encore plus l'accent sur ce genre de démarche et... Je pense que dans les années, voire dans les mois à venir, vous allez voir des choses se mettre en place que vous n'avez pas encore eu l'habitude de voir. Et on espère vraiment que ça va fonctionner parce que, tu l'as dit, il y a vraiment quelque chose à faire.
Ouais,
et
matière.
Pour le club, et pour les gens de cette ville, sincèrement, on peut passer des très bons moments et avoir des super surprises.
Toi, Gaët, à la Ligue, pourquoi pas aussi proposer cette initiation interquartier.
Mais il y a des choses qui se font déjà. Hein.
Ouais.
Il y a quand même pas mal de choses qui se font. Il y a un exemple tout bête, et pas si loin qui se fait, c'est à Valence.
Ouais.
Il y a plein de rugby et c'est ce qu'ils font, c'est vraiment intéressant. Ils vont dans les quartiers, ils touchent énormément de public.
Ça sensibilise.
Ouais. Et donc il y a la Ligue, ils sont porteurs de ça, hein. Ils les aident à se développer là-dessus. Il y a les interventions dans ce qu'ils appellent les QPV, si je ne dis pas de bêtises, les quartiers prioritaires des villes. Donc il y a des choses qui se font quand même.
Et on souhaite que ça continue comme ça à Grenoble. On voit malheureusement pas assez ce genre d'initiative associative, si je peux me permettre. Mais bon, voilà, on a lancé la perche. On espère que notre appel sera reçu. Voilà, c'est tout ce qu'on souhaite à la jeunesse grenobloise des quartiers. Messieurs, on va parler un peu de vos meilleurs souvenirs rugbystiques et légèrement coquinous. Steve, en avril 2012, il s'est passé quelques pourgateries. Peux-tu nous expliquer, toi, dont le talent physique a ébloui l'œil du photographe?
Tu parles du calendrier, c'est ça?
Absolument.
Ben écoute, c'est une sacrée histoire. J'avais toujours voulu aller jouer dans un espoir, parce que quand on est jeune, on veut toujours intégrer un centre de formation dans un club pro. Et tous les étés, je faisais le beach rugby à Tignes avec des collègues d'Albertville, et je tombe sur le Stade Français qui était en stage, et dont Max Guazzini, qui était président encore à ce moment-là. Et du coup...
Tu lui as tapé dans l'œil.
J'espère pas. Du coup, on sympathise avec lui, je prends ses coordonnées pour postuler au Stade Français. Du coup, ça se fait, enfin, je le fais pas tout de suite.
Ouais.
Et deux ans plus tard, donc l'année 2012 ou 2011, je vois dans le Midi Olympique comme quoi c'est la dernière, année du calendrier. Et du coup, avec le collègue avec qui j'étais, on postule et finalement, je suis retenu pour le casting du calendrier des dieux du Stade.
C'est fantastique.
Et donc,
il manquait plus que Dalida et tu faisais le duo.
Et ouais. Alors, je ne suis pas sûr d'être très bon en chanson, comparé à Ben. Mais
on ferait un karaoké à l'occasion. C'était une belle aventure. Franchement, tu as époustouflé un peu le monde féminin, tous les fans du rugby, déjà de la région et de la France entière. Hein. Tu étais l'instant pin-up.
Non, c'était cool. Sincèrement, c'était une belle journée. En plus, j'ai croisé quelques joueurs pro et tout. C'était vraiment sympa. Ouais.
C'était pas mal. Et on t'en remercie pour ce regard qu'on a de toi, qui est différent de ce que tu es aujourd'hui. Merci, Steve.
Merci à toi.
Ben, j'avais une petite question pour toi. T'aimes les States, t'aimes la vie, t'aimes les smokers. Un jour, peut-être, tu seras peut-être le sélectionneur des USA. Est-ce que ça te ferait plaisir?
Sélectionneur, je sais pas. En tout cas, préparateur physique, pourquoi pas. Si l'opportunité se présente, ça sera avec plaisir.
Ouais. T'as déjà vadrouillé là-bas, non?
Ouais, j'y suis allé quelques fois, ouais.
Du coup, on va faire un petit appel à tous les clubs américains qui nous écoutent, bien entendu, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup, messieurs. On va faire si vous cherchez un préparateur physique de talent, n'hésitez pas, vous me contactez, on est sur RKS 97 FM, dans Banagogo. J'avais une petite question, on va passer sur un quiz, il ne nous reste pas trop longtemps. On va commencer, vous répondez tous les trois, messieurs, pêle-mêle. Je suis né en 75 à Auckland, ailier de talent puissant. Je marque 63 essais. Mais qui a répondu aussi vite? C'est bien entendu notre sprinter version chambérienne, Ben Simon Cote. Merci à vous, Ben. Quelle rapidité là aussi au micro, c'est indéniable. Merci.
De rien, de rien.
Quel ailier est le plus technique? Réponse 1. Thomas Gossi. Réponse 2, Ben Simon Cote. Réponse 3, la pomme.
La pomme.
Ouais, je dirais la pomme, parce que je connais les deux autres et techniquement, c'est pas la folie. Hein.
D'ailleurs,
moi, je connais la pomme.
On va faire un petit big up à la pomme. D'ailleurs, je vais passer un petit message pour Adila Chabar, ancien œuf de Grenoble. C'est mon poteau, vous le connaissez.
Grand joueur.
Ouais, et d'ailleurs, la pomme, c'était vraiment son gros père, c'était son père affectif là-bas. C'était vraiment la pomme l'a accueilli avec toute la tendresse dont on le connaît. Et il avait un sourire éclatant, un sourire émail diamant. La pomme, c'est vraiment Colgate blancheur. Voilà, c'était un petit quiz. Et qui a gagné, messieurs, le Brennus en 2015? Réponse 1, Clermont. Réponse 2, le Stade français. Réponse 3, le Loup.
Stade français.
Messieurs,
bah, on est Clermont. Clermont.
Clairement,
non. Français, ils sont en 2016, non?
Mmh, oui. Mais c'était Stade français, bonne réponse de notre ami le solide conseiller technique à la Ligue. Merci à toi, Jaet. On va passer rapidement. Est-ce qu'on a le temps? Oui, rapidement. La cote à gogo, les paris à gogo. Alors, les paris à gogo, c'est un peu comme un côté match de folie. Messieurs, vous me dites rapidement sur qui vous mettrez une pièce, Lyon ou l'UBB?
Lyon.
J'aime bien Lyon, mais je vais dire UBB.
Steve.
L'UBB aussi.
L'UBB. Ouais. Christophe Furieuse, big up. Toulouse-Toulon, messieurs. Gros choc.
Toulouse.
Parfait.
Imbougeable en ce moment.
Ouais. Absolument. Une défense de folie. Béziers-Grenoble.
Grenoble.
On va mettre la courge là-bas au stade de la Méditerranée.
Grenoble.
Voilà, on va les enquiller sévère. Steve, tu vas être puissant, tu vas franchir la ligne et tu vas faire bonheur aux supporters. Valence-Roman.
Van.
À domicile, c'est Van.
Van.
Van, bien sûr.
Il y aura des crêpes à la buvette, messieurs.
Hein. À la Rabine, aussi, tu vas pas gagner à la Rabine.
Crêpes, c'est ouais, compliqué. Et Nice-Chambéry. À Nice.
Chambéry.
Allez, Chambéry.
Ouais, Chambéry, on va jouer Chambéry. Chauvin, Chambéry.
Ouais, il fait vraiment gros coup à notre Tectomago s'il sera absent avec. Il se fait réparer le nez avec Gérard Depardieu. Voilà, c'était la petite transition, messieurs. On va passer au. Ben ouais, on va passer rapidement aux anniversaires des rugbyman un peu de la région. Avec, ben, premièrement, honneur aux femmes, Margot Donzel des Amazones. Qu'on salue, bon anniversaire. Julien Michel du Touvet Poincharra, ce centre reconverti devant de folie. Maël Coche, ancien joueur de Grenoble, ailier de talent. Jérémy Vossier de Gap, Romain Chireux, ancien de l'US de Pont. Et Jean-Pierre Coineau de Cessin, le bon vieux Jean-Pierre qui veut la buvette, le cochon et le saucisson. Merci Jean-Pierre. On t'attend à la radio quand tu veux, mon Jean-Pierre. Voilà, on le disait, il y aura un déplacement ben, jeudi à 20h45 au stade de la Méditerranée. On vous souhaite un gros match, messieurs. Merci. Moi, je vais vous remercier d'avoir été présent ce soir. C'était un réel plaisir, vraiment. Steve, merci.
Eh ben, écoute, merci à toi. C'était vraiment sympa ce petit échange. Et puis voilà.
Merci beaucoup, l'Américain Pen. Un grand merci du fond du cœur.
Avec plaisir. C'était un très bon moment.
Merci. Et toi, Gaël, je te regarde mon œil dans les yeux. T'as été érotiquement correct. Et je te remercie pour ta présence.
Merci à toi, Rome.
Merci
cool.
Pour tout.
Vraiment cool.
Je vais finir par une petite note un peu noire. Un hommage à Frédéric Bagalino, qui était bénévole au club des Chirols. Voilà, je vous en parle, ça me met les frissons. Elle s'est éteinte hier matin, malheureusement, après des complications opératoires. Ça me touche, j'ai une grosse pensée à sa famille, à son ex-mari, à ses enfants, à Seb et Anto, et voilà, tout le club des Chirols la soutient, et tout le monde du rugby la soutient. Voilà messieurs, c'était la bande à gogo, encore un grand merci à vous, et je vous aime du fond du cœur messieurs.
Merci à toi.
Merci.